La vie d'Avidanta. Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le journal hebdomadaire de la vie quotidienne. Avant de vous présenter le sommaire, j'ai une petite info locale à vous communiquer. Un nouvel atelier de MoveNat va vous être proposé sur Saint-Afrique. Enseigné par Philippe Asselet, maître de Qigong et de Tai Chi. Le MoveNat est une pratique de remise en forme et d'éducation physique basée sur la gamme complète des habiletés motrices naturelles de l'homme. Courir, sauter, porter, lancer, grimper, rouler, ramper, nager. MoveNat est une méthode naturelle de fitness pour le monde réel. À partir du 16 mars, à la salle Atout Sport, le mercredi sur Saint-Afrique. Renseignez-vous au 06 12 58 37 76. Revenons à notre sommaire d'aujourd'hui. Le thème principal abordera les addictions, qu'elles soient au sucre, à l'alcool, au tabac, au café, au sexe, au rock'n'roll, on en dénombre à peu près une quinzaine. Dans la rubrique des aliments qui nous soignent, nous parlerons de l'oignon, très utilisé aussi en homéopathie. L'allium cepa est un grand remède des rhumes allergiques transparents. Et pour la première fois, je vous ferai la lecture d'un conte de Jacques Salomé, extrait de son livre « Contes à guérir, contes à grandir ». Tout de suite, enchaînons sur notre thème du jour, les addictions. On pourrait définir les addictions de la façon suivante. C'est l'impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement malgré la connaissance de ses effets négatifs. Il est donc impossible de s'en empêcher, même si on sait que ce n'est pas forcément bon. On continue parce que justement, on est prisonnier de cette répétition. Vous allez être surpris par ce que je vais vous dire. On est programmé pour l'addiction. Oui, on est tous addicts à quelque chose, à un comportement ou à quelqu'un. Pourquoi je dis ça? On est addict avant la naissance. C'est pour ça qu'il est difficile de lutter contre une addiction, car ça fait partie de nous. Il paraît que la muqueuse de l'utérus est sucrée, avec un goût de vanille, et regorge d'endocannabinoïdes. Ce sont ces petits récepteurs présents dans le corps qui s'activent comme sous l'effet du cannabis. Donc, on passe 9 mois à baigner dans le sucre, l'arôme de vanille et le cannabis, et puis on arrive sur Terre, et tout à coup, on se dit « Mais où est passé le paradis artificiel ?» Après 9 mois de bonheur, on découvre la frustration. Certes, il y a des addictions moins dangereuses que d'autres. Entre une addiction au sport et une addiction à l'alcool, il va y avoir une grosse différence. Le sportif addict va moins embêter les gens que la personne addicte à l'alcool qui, elle, risque de pourrir la vie de sa famille. Le gros danger est de passer d'une addiction à l'autre. On arrête l'alcool, on fume plus. On arrête le tabac, on boit plus. On se met au sport, on devient drogué du sport. On arrête le sport à cause d'une tendinite et hop, on se met dans le sucre et dans le chocolat et on ne peut plus s'en passer. Tabac, alcool, sucre, cocaïne, héroïne, cannabis, achats compulsifs, sport, sexe, écran, réseaux sociaux, la liste des addictions est longue. En fait, c'est ce phénomène addictif qu'il faut savoir connaître et pouvoir maîtriser. On ne peut pas maîtriser quelque chose que l'on ne connaît pas. Alors comment ça fonctionne? Tout part des neurones à dopamine, donc ça commence dans le cerveau. Il faut savoir que la dopamine est le messager ou le neurotransmetteur du plaisir immédiat. C'est-à-dire que les substances psychoactives consommées libèrent la dopamine qui active différentes zones du cerveau reliées entre elles, notamment le circuit de la punition-récompense. Et comme la dopamine ne dure pas longtemps, on est obligé de retourner aux produits, tels que l'alcool, la drogue, le sucre, qui va libérer de la dopamine, ce qui en retour va donner l'envie de consommer toujours davantage, et on rentre dans un cycle vicieux sans fin. La dopamine fait partie des neurotransmetteurs produits par le système nerveux. Il y en a d'autres, appelées les hormones du bonheur. Elles favorisent des sentiments positifs. Les quatre principales sont donc la dopamine et la sérotonine, l'ocytocine et les endorphines. Et comme je vous l'ai déjà dit, la dopamine active le système de récompense dans le cerveau et est connue comme étant un moteur intérieur. La sérotonine, elle, est l'hormone du bien-être qui réduit l'anxiété et équilibre l'humeur. L'ocytocine est l'hormone des câlins et des liens affectifs. Elle renforce le sentiment de confiance et réduit le stress. Les endorphines, elles, sont des hormones qui influencent positivement notre niveau d'énergie et inhibent les sensations de douleur. Elles nous mettent comme dans un état d'ivresse. Pour sortir du système infernal de production de dopamine, il va être nécessaire de développer ces autres neurotransmetteurs. Car la dopamine rentre en compétition avec la production de sérotonine. Et pour freiner les addictions, il va falloir cultiver le désir d'arrêter, et ainsi renforcer ses motivations. Comment savoir si on est addict? Trois critères aident à reconnaître son niveau de dépendance. Le premier, c'est la tolérance. On est obligé d'augmenter la dose pour avoir le résultat escompté. Par exemple, avec l'alcool, la première fois, on boit un verre, on est un peu saoul ou joyeux, et ensuite, il en faut deux, puis trois. Pour le tabac, c'est pareil, pour le café et pour le sucre aussi. Le deuxième critère, c'est le syndrome de sevrage. Et si on a essayé d'arrêter, on peut voir comment ça s'est passé. C'est sûr que si on arrête le café, on va avoir quelques maux de tête, mais ça va vite passer. Si on arrête l'héroïne, ça va durer 10 jours et c'est très très douloureux. Et quand on arrête le sucre, le syndrome de sevrage est aussi très difficile. Et le troisième critère, c'est un mot anglais, le craving. C'est une impossibilité de résister. C'est comme une fringale. C'est le désir insatiable. Ça nous traverse la tête et sans passer par le mental et sans s'en apercevoir, on va prendre un verre d'alcool. C'est un réflexe conditionné. Ces trois critères-là informent sur son addiction. Tenez, en sport par exemple. Si je cours pendant une heure, c'est bien. Ensuite, je suis obligée de courir pendant deux heures. Ça, c'est la tolérance. Et si je ne cours pas, eh bien, je suis dépressif, je suis triste, je suis angoissée. Ça, c'est le syndrome du sevrage. Je ne m'en aperçois pas, mais quand je suis en réunion, je n'arrête pas de me lever, je tourne autour de ma chaise, je ne peux pas m'empêcher de bouger. Ça, c'est le craving. De façon générale, voici quelques plantes d'accompagnement au sevrage. Pour décrocher du sucre, deux plantes sont intéressantes. La Gymnema sylvestre et la Carcinia cambogia. Pour décrocher de l'addiction au tabac ou à l'alcool, une plante très intéressante est le kudzu, associé à de la vitamine C, du magnésium et de la vitamine B. Mais le kudzu, même s'il est intéressant, car il sature les signes de dopamine au niveau du cerveau, il constipe. Il est œstrogène-like, cela veut dire qu'il mime l'action de l'hormone féminine appelée œstrogène. Donc, on ne peut pas le donner à tout le monde. Et en plus, il ne faut pas le prendre plus de 8 jours à la suite. Enfin, une autre plante qui accompagne tout type de sevrage, c'est la Scutellar lateriflora, Scutellaria lateriflora. Une plante qui gagne à être connue. Elle est peu connue en France. La Scutellaire est d'origine d'Amérique du Nord. On peut cependant facilement la faire pousser en France. À l'état sauvage, elle affectionne les milieux humides, les marais par exemple. Elle fait partie de la famille des Lamiacées, comme la menthe, le thym, la mélisse, et mesure jusqu'à 80 cm de hauteur. Cette plante est utilisée de longue date par les Amérindiens du Nord, les Algonquins ou les Iroquois, notamment pour faciliter un accouchement confortable chez les femmes et lors de rituels de purification. Elle a de nombreuses propriétés en usage interne. Elle est décontractante et anxiolytique. Elle relaxe les muscles et le cerveau et en même temps, c'est un tonique du système nerveux. Elle a une action antidépressive légère et aussi sédative légère. Elle est bénéfique pour le cœur. Elle a un effet profond et subtil sur le mental. Alors comment l'utiliser ? Ces feuilles s'utilisent en infusion, mais elle est amère. Sa racine se prépare en décoction. On la trouve aussi en teinture mère et enfin en gélule de poudre de plante. Son intérêt est d'agir sur plusieurs plans. Elle calme, mais n'endort pas. Au contraire, elle tonifie le système nerveux, nous aide à affronter les événements, étant ainsi utile en cas de dépression légère ou pour un sevrage en douceur aux antidépresseurs. C'est d'ailleurs la plante du sevrage par excellence aux drogues et médicaments psychotropes de toutes sortes. Elle augmente le taux de sérotonine, dite l'hormone du bonheur, et au niveau physique, son effet décontractant est étonnant. Elle fait donc merveille en cas d'anxiété, d'état dépressif passager ou durable, angoisse, insomnie, stress, surmenage, fatigue nerveuse, digestion difficile due au stress, migraines et maux de tête, ainsi que d'hyperactivité. À un niveau subtil, elle favorise le mental, la méditation, la lucidité. Elle apaise, mais on ne doit pas chercher dans cette plante un moyen de fuir nos émotions. C'est bien ce qui fait son intérêt. Pour le travail sur soi, elle est idéale. Elle favorise la prise de conscience des plans subtils de notre conscience et elle permet une prise de recul salutaire. Il est important de savoir qu'il n'y a pas un remède pour tout le monde, à chacun ses besoins. On pourra aussi respirer des huiles essentielles, c'est la technique de l'olfaction. À chaque envie de fumer, on va respirer une odeur choisie que l'on aime bien. On peut aussi utiliser des fleurs de Bach contre la tristesse, pour redonner de la joie, pour accompagner au changement. Le travail se fait à tous les niveaux. On y arrive toujours, il ne faut pas se culpabiliser, c'est juste une question de temps. Quand la personne arrive à arrêter la chose qui la domine, elle devient maîtresse d'elle-même. Elle est toute contente et l'accompagnant aussi, car c'est un travail d'équipe. Il y a un pilote et un copilote. Le pilote, c'est la personne qui souhaite arrêter de consommer. Et le copilote, c'est l'accompagnant. Quand on arrête de fumer, par exemple, et que l'on reprend ensuite, on ne redémarre pas de zéro. On a une connaissance de ce qui se passe et des difficultés. Ce n'est pas un échec, c'est un succès différé. Et ça, ça fait toute la différence. Quand on est décidé, le mieux, c'est de trouver un bon accompagnant, car il ne faut pas perdre de vue que le traitement qui sera mis en place est personnalisé. Dans la rubrique « Ces aliments qui nous soignent », découvrons ensemble les qualités de l'oignon, Allium cepa. Cultivé par les Sumériens depuis au moins 6000 ans, il est originaire d'Asie centrale. En Chine, il était le symbole d'intelligence, alors qu'en Chaldée, il était pourvu de propriétés magiques. Dans l'Égypte ancienne, il constitua avec l'ail, le radis et le pain, l'alimentation de base des bâtisseurs de pyramides pour leur donner force et santé. Lors de son deuxième voyage en 1493, Christophe Colomb importa l'oignon en Amérique. L'oignon demeure aujourd'hui l'un des légumes condiments les plus utilisés à travers le monde. L'oignon est peu calorique. Composé de 85 à 90% d'eau, il est pauvre en protides et en lipides. Il comporte une plus grande part de glucides, essentiellement sous forme de fructosane, qui sont parfaitement adaptés aux diabétiques, d'autant plus que l'oignon a des vertus hypoglycémiantes. Hypo voulant toujours dire en dessous, et glycémiante nous parle du taux de sucre dans le sang. C'est pour ça qu'on peut dire que l'oignon est intéressant en cas de diabète, car il abaissera le taux de sucre. Il contient une bonne variété de vitamines, telles que la vitamine C, la B1, B2, B3, B5, B6, B9 et un peu de provitamine A. Pour les oignons roses, violets ou rouges, il est à souligner que l'oignon, au même titre que le chou ou la pomme de terre, fut utilisé par les marins pour lutter contre le scorbut lors des grandes traversées. Il contient également de nombreux minéraux et oligoéléments, notamment du soufre, qui est à l'origine de sa forte odeur et de sa saveur. C'est ce qui fait aussi qu'il est parfois indigeste. Cependant, cuit, il est en général très bien supporté par les intestins. Il possède des propriétés hypocholestérolémiantes, donc il fait baisser le taux de cholestérol, des propriétés hypotensives et antioxydantes. C'est donc l'un des aliments majeurs de la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est grâce à ses composés soufrés qu'il s'oppose à l'élévation excessive du sucre dans le sang. Pour le traitement de la diarrhée, consommez régulièrement le bulbe et faites-vous des décoctions avec ses pelures. C'est-à-dire, faites bouillir 5 à 10 minutes les pelures de l'oignon à feu doux. Et ensuite, filtrez et boire. Sur le plan digestif, l'oignon aide notamment la digestion des céréales, des légumineuses et des céréales. Et pour finir, en usage externe, il est efficace pour traiter les piqûres de guêpes ou d'insectes. On frotte le bouton pendant 2 minutes avec un oignon coupé en deux. Dans le partage musical aujourd'hui, je vais vous laisser écouter une version magique de Summertime, interprétée par Angélique Kidjo, icône du continent africain, surnommée la première diva africaine. Vous allez l'entendre, c'est magnifique.
Finenue, I say, oh,
Waouh, bouleversante. Cette chanteuse béninoise et française, connue pour la diversité de ses influences musicales, l'originalité de ses clips et son engagement humanitaire comme ambassadrice internationale de l'UNICEF, fait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes au monde et même des 10 artistes africains les plus engagés. J'ai découvert ce livre de Contes à guérir, contes à grandir de Jacques Salomé il y a presque 30 ans. Et je le feuillette régulièrement, car j'y trouve des symboliques très intéressantes. Ces contes, par leur contenu métaphorique, poétique et ludique, ont le pouvoir de parler à l'inconscient de celui qui les écoute et les reçoit. Ils peuvent déclencher une véritable alchimie réparatrice et restauratrice de l'imaginaire blessé. Alors voici le conte de l'arc-en-ciel des émotions. Il était une fois une jeune fille qui n'osait jamais dire ses émotions. À personne, et surtout pas à ceux qu'elle aimait. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de dire ses émotions, car des fois cela déborde. Il y a alors des pleurs, des sanglots ou des rires, des fous rires, des sueurs, du chaud et du froid. Bref, plein de choses qui se bousculent dans le corps. Il y a aussi les réactions de l'entourage qu'elle imaginait. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis, pour oser parler de ses émotions, il faut déjà les connaître. Vous les connaissez, vous, vos émotions? Essayez déjà de m'en dire 3 pour voir. Bon, la question n'est pas là, puisque je raconte l'histoire de la jeune fille qui ne savait pas dire ses émotions. Un jour, qu'elle rêvait éveillée dans son lit, en regardant le ciel, à imaginer les bonheurs qu'elle pourrait avoir dans sa vie, elle vit au-dessus d'elle un magnifique arc-en-ciel. Mais ce qu'il y avait d'étonnant dans cet arc-en-ciel, c'est qu'il possédait une 8e couleur, la couleur noire. C'est très rare un arc-en-ciel avec 8 couleurs. Et soudain, elle comprit. Elle comprit tout. Elle sut, comme cela, le nom des émotions qu'elle avait en elle. Grâce aux couleurs de l'arc-en-ciel, elle devina que chaque couleur représentait une ou plusieurs émotions. Chaque couleur devenait un mouvement de son cœur, une direction de ses énergies, un élan de ses sentiments, une vibration du ventre ou du dos, un scintillement des yeux. Elle devina tout d'un seul coup. Le rouge, par exemple. Le rouge était la couleur de la passion, du baiser. L'orange, celle de l'abandon, de l'offrande, du don de soi. Le jaune, celle de la lumière, du jaillissement, du plaisir. Oui, se laisser emporter, confiante, fiable, comme un sourire de printemps. Et le vert. Le vert, c'était la couleur du ventre, du mouvement de la vie en elle, tout ce qu'elle sentait vrai, véritable en elle. Le bleu, couleur de la tendresse, des caresses sans fin, de la douceur et aussi de l'espoir. Le violet, lui, était une couleur plus inquiétante, fermée, sourde. Il y a de la violence dans le violet, de la menace. C'est important de savoir aussi reconnaître cela en soi. Violence que l'on porte, violence que l'on provoque parfois. Violence qui arrive par des chemins imprévisibles. Le noir, ah, cette couleur noire, là, présente dans l'arc-en-ciel. Couleur de la peur, du diable hautain qu'il y avait parfois en elle. Et puis, la couleur blanche, la couleur du désir infini, multiple, qui renaissait en elle, parfois timide, d'autres fois plus direct, plus osant. Cette couleur-là est précieuse, indispensable. Sans elle, les autres couleurs n'existeraient pas. Le blanc est une couleur lumière qui capte toutes les autres et leur donne plus d'existence. À partir de ce jour-là, la jeune fille, ah, j'ai oublié de vous dire son nom, Yanou sut parler de ses émotions, car il lui suffisait d'en rechercher la couleur. Elle regardait le ciel, imaginer un arc-en-ciel et chercher la couleur de l'émotion qui l'habitait. Bien des années plus tard, elle fut très étonnée d'entendre sa fille lui dire « Tu sais, maman, je suis un arc-en-ciel d'émotions. Je les ai toutes. Quand je danse, j'adore danser. La danse, c'est le chant des émotions. Des fois, j'éclate quand toutes mes couleurs, je veux dire quand toutes mes émotions se mettent à vivre ensemble. Oh là là, je sens que je vais éclater un jour. » Je ne sais pas si la fille de Yanou éclatera comme elle le craint. Ce que je sais, c'est que sa mère avait fait une grande découverte en associant ses émotions aux couleurs de l'arc-en-ciel. Avant de nous quitter, j'aimerais faire une petite célébration, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit poisson préféré qui fête ses 24 ans. Alors, bon anniversaire mon cœur! Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien, pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Saint-Afrique dans les hebdos, la Biravidanta. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h15. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Adiciat.